la parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier. La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.
Bonjour à toutes et à tous. Nous allons évoquer avec Dylan Casas-Nova son activité de designer industriel, mais également son parcours d'étudiant en art visuel dans la région sud. Et en tant qu'éco-responsable, acteur et producteur même, éco-responsable, nous aborderons évidemment son point de vue éclairé sur cette thématique. Bonjour Dylan.
Bonjour Bertrand et merci de m'accueillir dans cette web radio.
Dylan, vous êtes jeune, vous avez 28 ans, vous êtes sorti de l'école, enfin vous nous préciserez ça, mais il y a assez peu de temps. Vous avez suivi une formation dans un établissement d'enseignement supérieur en art visuel public. Et ensuite, vous avez suivi un enseignement complémentaire en Suisse. Est-ce que vous pouvez brièvement nous décrire ce parcours et préciser aussi comment l'orientation vers le design s'est peu à peu dessinée pour vous?
Bien sûr. Alors, avant mes différentes formations, il faut savoir que j'ai toujours été attiré par la création et le dessin. Et lorsque je n'étais encore qu'un enfant, souvent mes parents me rappelaient que je m'introduisais dans le garage et que je m'amusais à faire des trous avec la perceuse ou à mettre des clous dans l'établi sans vraiment de but précis. Puis à l'adolescence, j'ai passé énormément de temps sur l'ordinateur pour apprendre à utiliser des logiciels de création comme Photoshop ou Illustrator. C'était pour moi une manière de dessiner d'une autre façon et de créer des choses qui m'étaient alors impossibles à faire à la main. C'est donc assez naturellement, une fois mon bac en poche, que je me suis dirigé vers une mise à niveau en art appliqué pour sortir du graphisme qui était devenu du coup ma zone de confort. Après cette année de mise à niveau qui m'a fait mûrir sur les différentes pratiques artistiques, j'ai essuyé quelques refus malheureusement, notamment des beaux-arts d'Aix-en-Provence ou de Marseille. Et ce sont les beaux-arts de Toulon, maintenant appelés ESAD-TPM pour École supérieure d'art et de design Toulon-Provence-Méditerranée, qui ont cru en moi et j'ai pu intégrer une formation sur 3 ans appelée DNAT, donc pour Diplôme National d'Art et Technique, spécialisé en design d'auteur. J'ai finalement eu les félicitations du jury avec mon projet de diplôme UC, pour interrogation, donc qui est une poubelle réalisée à partir de déchets plastiques récupérés sur les littoraux de ma région. Je me suis pas arrêté là car j'avais envie d'apprendre encore plus et de me spécialiser vraiment dans le design d'objets. Parce que pour moi, l'art, c'était un peu un milieu un peu... Il n'y avait pas assez de contraintes. J'avais besoin vraiment de ces contraintes-là pour m'aider dans ma création. Et j'ai participé donc aux journées d'admission de l'ENSI pour École Nationale Supérieure en Création Industrielle, qui est à Paris. Et à l'ECAL, donc pour École Cantonard d'Art de Lausanne en Suisse. Alors malheureusement, j'ai pas été accepté à Paris, mais j'ai été accepté en Suisse à l'ECAL et j'ai pu intégrer un bachelor en design industriel et de produits pendant 3 ans. Donc dans cette école très prisée par son niveau d'enseignement, par les collaborations qu'il y a là-bas, le matériel mis à disposition et en fait la diversité des formations, ça offre un vrai melting pot de personnes talentueuses à l'intérieur, que ce soit en photographie, en art visuel, en design ou en cinéma.
Non, merci, c'est très intéressant. J'ai juste, en vous entendant, Dylan, je me demandais, ouais, la mise à niveau, comme en art appliqué, pardon, ouais, vous l'avez effectuée dans la région et dans un établissement public ou privé?
Alors, c'était à Marseille et c'était un établissement privé.
D'accord,
c'était,
très bien.
C'était Studio M, c'était à côté de la gare Saint-Charles. Mais je crois que maintenant, ça n'existe plus là-bas.
D'accord. J'ai une question qui va dans le prolongement de ce que vous venez de nous dire. Donc le parcours est très complet, si j'ai bien compris, c'est quasiment 6 voire 7 ans d'études.
Exactement, ouais.
C'est un long parcours de qualité en France, à l'étranger. Comment se fait la transition, parce que on peut parler de transition, entre le parcours en école, dans un quand même un milieu un peu protégé, même privilégié, avec tous ces outillages, toutes ces ressources humaines mises à disposition, et puis le grand bond, le grand saut vers l'activité professionnelle.
Alors la transition, c'est vrai que pour les jeunes diplômés d'école d'art, je pense que c'est un moment qui n'est pas facile, parce que du coup, c'est vrai que vous passez d'une école où vous disposez de tout un tas de machines, qui vous permettent de réaliser des maquettes avec des professeurs, des intervenants qui sont là pour vous conseiller et pour même repousser vos limites, à finalement vous retrouver un peu seul, sans ces machines-là qui vous permettaient quand même, c'était votre moyen de production, il n'y a plus d'avis, Donc ce que vous créez, il n'y a que vous qui pouvez le juger ou les gens de votre entourage. Et sans l'émulsion que créent les écoles d'art aussi, parce que il faut pas se voiler la face, mais une école d'art, c'est avant tout un lieu où tout le monde s'exprime, tout le monde donne son avis, s'entraide, et il y a une vraie mouvance créatrice comme ça, je veux dire. C'est vraiment quelque chose de fort. Donc, après avoir eu son diplôme, vous êtes un peu lâché comme ça dans le monde du travail, parce que ces écoles-là, elles vous forment pas vraiment dans la recherche d'emploi, elles vous forment à faire du design ou à faire de l'art. Et donc, vous cherchez souvent un stage qui est un peu mal payé, dans des grandes villes comme ça, où le logement est quand même un réel coût. Alors moi, j'ai quand même eu la chance d'avoir des parents présents et conscients de cette passion qui m'anime et qui ont pu m'assister et payer mes études en Suisse. Mais par exemple, l'ECAL, l'avantage que l'école a, c'est que c'est une école publique aussi, au même titre que les Beaux-Arts de Toulon, donc elle est subventionnée et elle n'est pas très chère. Bien sûr, ce qui est cher en Suisse, c'est la vie en général, quoi. Mais du coup, moi, après être sorti d'école, je voulais quand même avoir une réelle indépendance et éviter les frais supplémentaires. Donc c'est pour ça que j'ai continué le graphisme, parce que ça me permet toujours d'avoir des petites rentrées d'argent. Et j'ai ouvert une micro-entreprise pour commencer mon activité de designer industriel. Vu que j'avais déjà réalisé des stages dans le cadre de mes études, je voulais pas encore faire un autre stage et être encore un poids, si vous voulez, pour mes parents.
Oui, c'est clair, c'est assez clair. C'est vrai que ce que vous dites me fait penser au récent rapport de la Cour des comptes, qui a donc analysé l'offre d'enseignement supérieur en art visuel dans les établissements publics en France. Et bon, il y a des remarques qui sont faites, notamment celles qui pointent du doigt le manque de suivi des étudiants de préparation d'abord à la vie active, c'est ce que vous venez d'évoquer, mais aussi le suivi après le diplôme des étudiants pendant leur première, deuxième, voire troisième année d'activité, c'est ce que vous venez d'évoquer. Je ne sais pas si vous avez lu ce rapport, Dylan, d'ailleurs.
Alors non, j'ai pas lu ce rapport, mais en fait, il est vrai qu'après les Beaux-Arts de Toulon, je me sentais pas vraiment capable d'accéder directement au milieu professionnel. J'avais besoin vraiment d'avoir plus de connaissances dans divers domaines, comme les matériaux ou leur mise en forme, savoir faire des plans techniques aussi pour pouvoir communiquer avec les industriels, manier des outils de modélisation 3D, etc. Là, l'ECAL, ça a été quand même un vrai plus dans ma formation parce qu'on a pu voir un peu tout ça. Mais je tiens quand même aussi à souligner que l'École des Beaux-Arts de Toulon m'a permis d'acquérir des bases essentielles à mon métier d'aujourd'hui et qui plus est m'a montré la voie à suivre pour réussir. Parce que c'est dans cette école-là où finalement on doit un peu se débrouiller par soi-même qu'on arrive à faire, j'ai envie de dire, les plus belles choses. Pour ce qui concerne les écoles privées, je dirais que les frais excessifs de ces écoles, c'est une certaine manière, c'est lié au fait que derrière il y a peut-être plus de suivi et plus d'offres d'emploi à la sortie d'école que les écoles publiques. Mais je pense que dans ce genre d'études, ce qu'il faut avant tout, c'est la passion qui vous anime. Peu importe si l'école où vous êtes coûte 100 ou 10 000 euros, c'est l'intérêt que vous mettrez dans vos projets et votre dévouement personnel qui seront l'élément moteur. Après, c'est sûr que les écoles ne peuvent pas suivre aussi tous les étudiants, tous les élèves qui en sortent. Et c'est là où il faut, voilà, savoir se débrouiller un petit peu, faire jouer ses relations, ne pas hésiter à parler de son travail et vraiment à montrer une motivation sans limite. Et du coup, je reviens vraiment sur le fait que, pour le coup, l'École des Beaux-Arts de Toulon m'a vraiment donné ces qualités-là.
Merci pour eux. C'est vrai que le rapport évoque aussi ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire un plus grand suivi des étudiants dans les écoles privées, peut-être parce qu'il y a moins d'effectifs. En tout cas, vous avez suivi les Beaux-Arts, l'École des Beaux-Arts de Toulon, donc vous habitez dans la métropole toulonnaise. Vous avez certainement dû, je crois que vous m'en aviez parlé, travailler ou collaborer avec ce centre d'art labellisé, qui est la Villa Noailles et qui est spécialisée un peu dans l'organisation d'un festival qui fait la promotion du design. Est-ce que, d'abord, première question, vous avez collaboré de manière épisodique ou soutenue avec la Villa Noailles et est-ce que ces collaborations vous ont aidé à faciliter la transition vers l'activité professionnelle?
Alors oui, c'est vrai que la Villa Noailles m'a permis de faciliter un peu cet aspect-là professionnel. Ce magnifique centre d'art que nous avons, qui est la Villa Noailles, c'est vraiment un lieu qui permet de rencontrer des grands noms dans divers secteurs, mais aussi des jeunes très talentueux et dans plein de modes d'expression différents. Et c'est grâce au soutien des pouvoirs publics qu'un lieu comme celui-ci peut offrir un panel d'exposition aussi large et de grande qualité accessible à toutes et à tous. C'est aussi pour moi donc vraiment une opportunité de travail, main dans la main avec l'équipe très compétente et très agréable de Jean-Pierre Blanc. Et c'est vrai que elle a besoin de surpasser à chaque fois, à chaque événement, on a une attente et une qualité qui doit être encore plus haute. Et en plus, j'ai beaucoup, beaucoup appris et sincèrement, j'espère que les pouvoirs publics vont continuer d'aider des lieux comme ça qui sont indispensables, je pense, à la vie culturelle d'une région et voire même d'un pays, parce que la Villanoise, elle a quand même un rayonnement qui est au-delà de la France. Et voilà, je pense que c'est quand même c'est très très important dans le monde de la culture.
Oui, c'est ce que vous dites est vrai. La programmation de la Villanoise est très tournée vers l'international, au moins vers le design européen, voire même un peu plus loin, c'est vrai. Vous avez souligné le fait que, si je comprends bien hein, ce que vous avez dit, Dylan, le fait que les pouvoirs publics aident la villa fait que la villa aide à une forme de liberté vis-à-vis de la création contemporaine, mais pas celle d'un établissement qui aurait moins de liberté financière parce qu'elle ne serait pas subventionnée. Les pouvoirs publics que nous venons d'évoquer, ils sont présents à Toulon, Toulon c'est une métropole. Est-ce que travailler dans une métropole, certes, mais éloignée du centre qu'est Paris, surtout un centre artistique et culturel et économique, est-ce que ça vous pénalise pas un peu comme jeune créateur en design?
En ce qui nous concerne, moi j'ai toujours rêvé de rester travailler dans mon sud natal. Paris, c'est vrai, c'est une ville qui a plein de qualités, que ce soit pour la vie culturelle ou même les possibilités de trouver un travail assez rapidement. Mais j'ai toujours dit que c'est ici que je voulais être. Comme j'ai dit, j'ai pourtant fait des stages à Amsterdam ou à Londres, ce qui m'a permis d'être immergé dans des grandes villes et d'apprendre énormément. Mais je préfère largement être dans mon petit village de Kerkeran car j'y ai ma place. Il n'y a pas énormément de designers ni d'artistes comparé à Paris. Et je trouve ça plus agréable que d'être un designer de plus, si vous voulez, noyé dans la masse, quoi. Un de plus et voilà. Alors en termes d'avantages, je dirais que bon, d'abord, on a un cadre de vie ici qui est favorisé. Parce que vous savez, quand on est designer, on se doit de produire des objets ou du mobilier de manière respectueuse vis-à-vis de notre planète et vis-à-vis de notre environnement. Dans le sud, notre planète, on la voit, on la sent, la végétation, les littoraux, la mer, le vent. Enfin, tout ça, c'est pas un produit de l'homme, mais on s'en inspire grandement. Le problème pour moi des grandes villes, c'est qu'on ne voit plus ce monde naturel dont nous sommes à l'origine. Les bâtiments, les centres commerciaux et le goudron, je trouve, ils ont pris le dessus sur tout ça. Et dans le sud, les collectivités locales avec qui j'ai communiqué, elles veulent vraiment aider la jeune création, elles y trouvent un intérêt non négligeable, que ce soit pour le bien de la communauté ou pour soutenir des projets innovants. Je dirais que le seul bémol, c'est ce temps d'attente qui est souvent assez long pour avoir une décision visible concernant des aides ou voilà un soutien possible d'une mairie ou d'une collectivité, quoi.
Oui, vous habitez à proximité du littoral, donc c'est vrai que le projet que j'aimerais que vous évoquiez là plus précisément, qui s'appelle SEAU, SEA pour S-E-A, mer et U, c'est un jeu de mots, et est fait donc à base de thermoplastique. Je m'interroge en fait, évidemment vous êtes à Toulon, il y a la mer, il y a l'environnement qui est très présent, et vous avez raison de le souligner, je pense que c'est vraiment important, et on le voit dans la pensée, ou disons les arguments que mettent en avant beaucoup de jeunes designers, pardon, mais comment l'idée de ramasser sur le littoral ou bien de passer devant des déchets plastiques, bon, ça c'est vous passez devant sur la plage, vous voyez que c'est sale. Comment on passe de cette constatation qu'on peut tous être amené à faire à la conception d'un objet de design?
Alors ce choix, il est venu assez naturellement. Donc, lors de mon diplôme en 2015 aux Beaux-Arts de Toulon, je voulais effectuer un diplôme avec une matière peu coûteuse et facilement disponible. Et en fait, il s'avérait que les déchets plastiques, c'était le matériau parfait. Ils sont devenus omniprésents dans notre décor, on n'y fait même plus vraiment attention. Un sac qui vole par-ci, une bouteille jetée par-là, un petit morceau de plastique ici. Enfin, je veux dire, c'est assez triste. Et au début, j'avais beaucoup d'a priori sur le plastique comme étant un matériau très compliqué à travailler. Et j'ai finalement été surpris de la simplicité avec laquelle on peut le mettre en forme. Avec un petit four domestique, on peut le faire entrer dans sa température de fusion et lui donner la forme désirée. Donc à l'époque, j'avais produit un moule très simple avec des tasseaux de bois. Et je mettais mon thermoplastique à faire fondre dans ce petit four-là. Et une fois la bonne température, je mettais directement mes déchets plastiques dans mon moule avec un peu d'huile d'olive parce que ça facilitait le démoulage. Donc à l'époque, voilà, j'avais de l'huile d'olive. Et je me suis rendu compte quand même que 80 à 90% des déchets que j'avais ramassés, ils n'étaient pas recyclables. Alors d'une part parce que c'est très compliqué de savoir pour chaque déchet quel type de plastique c'est. Et d'autre part parce que beaucoup de plastiques ne sont pas recyclables, comme le PVC par exemple. Je ne pouvais pas mélanger les plastiques pour les faire fondre, car ils ont tous des températures de fusion différentes et il faut éviter qu'en fait un plastique brûle pour dégager du carbone, si vous voulez. À la base, quand ils fondent, ils ne dégagent aucune forme de carbone, ils ne sont pas brûlés, juste ils sont en température de fusion. Donc j'ai travaillé mes plastiques recyclés qu'avec du polyéthylène et du polypropylène, pardon. Et ce projet de diplôme, donc UC à l'époque, a depuis évolué grâce à l'appel à projet Goodbye Yellow via Axel Schnabel de l'ESAD MM, donc l'École supérieure d'art et design de Marseille Méditerranée. Et c'est vrai que ça m'a permis d'avoir une petite subvention pour mener à bien l'évolution de cet ancien projet, donc qui datait de 2015. Et c'est comme ça que CU est né. Donc le principe est le même, l'utilisation de déchets plastiques en polypropylène et polyéthylène haute densité pour créer une poubelle publique utilisable sur les littoraux, les villes ou les parcs. Chaque tuile de cette poubelle-là est composée d'environ 1 kg de déchets plastiques fondus et moulés grâce à un moule en aluminium usiné. Alors pour le coup, pour celle-ci, les déchets ils ne provenaient pas du littoral parce que je n'avais pas vraiment le temps, si vous voulez, de trier tous ces déchets-là et à moi, avec mes deux mains, à faire toute cette mise en forme-là. Mais j'ai collaboré en fait avec MP Industries, qui est une entreprise donc qui est à Gardanne et qui s'occupe de revaloriser les déchets de l'agglomération donc de Marseille et de Aix-en-Provence. Et donc en collaborant avec eux, j'ai pu bénéficier en fait d'une petite quantité de ces déchets plastiques qui étaient déjà broyés, que j'ai utilisé pour faire mes tuiles. Donc je me suis construit en fait un four solaire que j'ai utilisé pendant l'été 2019 et qui pouvait accueillir une partie de mon moule en aluminium. Et j'ai réalisé donc les 8 tuiles grâce à ce four solaire-là, qui m'a permis en fait de monter en température lentement mon plastique pour pouvoir après le mouler dans ce moule-là. J'ai aussi collaboré avec l'entreprise donc de Sarah Gala la serrurerie, qui est elle située à Roquefort-la-Bédoule, pour la production des pièces en acier et en inox du prototype. Donc typiquement le capot et le système d'ouverture avec le socle. Et voilà, j'aimerais vraiment moi pousser ce projet dans une phase quasi semi-industrielle, faire du mobilier public avec nos déchets pour que nous puissions tous voir et apprécier cette deuxième vie à ce qu'on considère tous comme des déchets et qui finalement ne sont pas vraiment des déchets mais sont plutôt de la matière qu'il faut retravailler.
Ah, merci, c'est très intéressant. J'imagine que vous avez dû, à force de travailler sur les plastiques, accumuler des connaissances certes empiriques et puis peut-être parfois plus académiques. La température de fusion oscille entre quel degré et quel degré sur les plastiques ?
Alors sur les plastiques, on a une température de fusion de 180 degrés. Donc vous voyez, c'est pas non plus excessif. Je veux dire, n'importe quel four peut y arriver. Et utiliser un four solaire. Voilà, c'est un gâteau. Ouais.
Oui, oui, le gâteau qui est à 180 degrés. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on voit quand même que vos interlocuteurs industriels, en tout cas pour ce qui est du prototypage, sont dans la région. Vous n'avez pas besoin d'aller très loin pour trouver des partenaires. Ça veut dire aussi que le fait de recycler nos déchets ménagers, c'est utile. Est-ce qu'on est susceptible, en faisant un tri de nos déchets, de rentrer dans un cycle de réutilisation d'une partie de ces déchets plastiques ?
Oui, exactement. Ouais.
D'accord. Pour ceux qui sont recyclables, en fait.
Pour ceux qui sont recyclables, voilà. Le tout, c'est qu'en fait, il n'y a pas tout est recyclable. Et c'est ça le plus gros problème, c'est que beaucoup de déchets, en fait, même si, entre guillemets, on dit qu'ils sont recyclables, personne ne va les recycler parce que c'est trop compliqué. Il y a trop de phases du type nettoyage, contrôle de la qualité, etc. quoi. Donc, c'est un peu l'aspect triste, quoi. C'est que pas tout n'est recyclable, malheureusement, dans le plastique.
Donc, vous avez réalisé, grâce à ces partenaires industriels, un prototype de cette poubelle. Ouais. Avez-vous l'occasion de la présenter à des petits prescripteurs de collectivités, des exécutifs en fait, de collectivités locales? Et si vous avez l'occasion de le faire, quelles sont les réactions? Je pense que les réactions doivent être intéressées.
Alors oui, effectivement, j'ai présenté ce projet-là à la mairie de Kerkeran, qui avait vu donc ce projet-là avec des vidéos et des liens sur des réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'ils ont super bien accueilli ce projet-là. C'est un projet qui les intéresse énormément et qui pourrait aussi se développer dans d'autres villes. Donc, ils m'ont reçu vraiment de manière très sympathique. Et donc là, on est en train un peu de discuter pour voir comment on va pouvoir un peu collaborer sur ce projet-là. Parce que moi, j'aimerais, si vous voulez, créer un circuit court de récupération des déchets, que ce soit avec la ville de Kerkeran, que ce soit avec les riverains qui y habitent, que ce soit avec les entreprises qui sont aussi là, et d'essayer voilà de créer quelque chose à notre petite échelle, pas partir dans des grosses consommations, dans des grosses productions avec des déchets qui viennent d'autres régions, etc. Non, c'est vraiment d'abord travailler avec ce qu'on a nous ici, avec nos déchets, des gens qui vivent ici, et en fait montrer vraiment aux gens que les déchets peuvent avoir une deuxième vie, et qui plus est, peuvent donner vraiment un aspect graphique, si vous voulez, à du mobilier urbain. Et souvent, ce mobilier urbain-là, il manque un peu cet aspect graphique. On a des choses qui sont, certes durables, mais voilà, un peu tristounettes, si vous voulez, mon avis.
Mais vous avez fait un calcul, réalisé un petit calcul de rentabilité sur ce projet, c'est-à-dire est-ce que ce projet est capable, on a beaucoup de littoral en région sud, est capable de s'auto-financer?
Alors, en ce qui concerne le budget, c'est vrai que c'est pas un élément que j'ai réellement eu le temps, si vous voulez, de pencher dessus, mais en fait, ce que je pense, c'est la chose suivante, c'est que la plupart de la matière pour faire une poubelle sont des déchets. Donc en fait, ça nécessite que du temps pour les ramasser ou pour les collecter auprès des gens qui produisent des déchets, donc vous et moi. Et après, les pièces qu'il y a donc en inox ou en acier en fonction de là où pourrait être posée la poubelle, ça c'est en fonction du nombre de pièces qu'on demande. Donc c'est sûr que plus y aurait une demande importante des villes, plus le prix de la poubelle en soi chuterait. Donc ça c'est le premier point. Moi après, comme je vous ai dit, j'ai pas fait donc de business plan ou quoi que ce soit vis-à-vis de ce projet-là, tout simplement parce que la rentabilité, s'il en faut une, il peut y en avoir une, mais je pense que pour l'instant c'est pas l'aspect principal de ce projet-là. L'aspect principal, c'est vraiment d'essayer de créer cette émulsion autour de ce projet-là, de trouver les acteurs qui vont pouvoir collecter les déchets ou les récupérer, voir comment on va travailler. Où est-ce que je pourrais avoir un local aussi, parce que pour l'instant c'est vrai que je travaille depuis mon appartement, donc il y a quand même une il y a un aspect qui est un peu voilà, qui est pas totalement fini en ce qui concerne mon studio de design, mais ça c'est des questions qui vont être abordées dans la suite et qui j'espère seront résolues de manière assez simple.
Et concernant l'aspect industriel, est-ce que vos partenaires, donc les collectivités locales, ont l'air intéressés, mais peut-être sont-ils un peu limités par leur taille aussi? Et les partenaires industriels sont-ils intéressés? Vous avez évoqué le serrurier, l'aspect serrurerie pour l'aspect métallique de l'objet. Il y a le recyclage que vous êtes capable en fait de réaliser seul. Est-ce que le prototype a retenu l'attention d'un gros industriel qui peut faire basculer le projet vers quelque chose d'un peu plus ambitieux à l'échelle uniquement régionale?
Alors c'est vrai que j'ai pas encore présenté ce projet-là à de gros industriels ou quoi que ce soit. La seule industrie, si vous voulez, avec qui j'aurais pu travailler, donc c'était MP Industrie qui est à Gardanne, qui m'a donné les déchets plastiques. Mais le problème étant que même si le projet en lui-même les intéressait beaucoup, comme je vous ai dit, il y a 1 kg de déchets par tuile, donc ça veut dire qu'une poubelle représente environ 8 kg de déchets plastiques. Et MP Industrie, pour le coup, je crois qu'ils font ils travaillent 8 tonnes de déchets plastiques par semaine. Donc, si vous voulez, il y avait vraiment cette différence-là, en fait, d'enjeu, quoi. Je veux dire, moi, j'arrivais avec ma petite poubelle et mes 8 kilos de plastique, et puis eux, ils font 8 tonnes en une semaine. Donc, c'est vrai qu'il y avait un peu cette différence-là, et c'est pour ça qu'en fait, ils m'ont laissé faire mes tuiles avec leurs déchets plastiques, mais ils sont pas intervenus dans la phase de chauffe, de compression, de moulage, etc. Donc, ça peut être une suite par rapport au projet qui est envisageable, je pense.
Oui, il y a ça, et peut-être aussi, vous avez évoqué la question du lieu de travail, votre studio. Peut-être y a-t-il aussi quelque chose à régler de ce côté-là, parce que évidemment, vous pouvez pas développer ce projet en restant à la maison. Ça, c'est une évidence. C'est une petite parenthèse. Il y a un gros projet là qui s'est réalisé à Marseille d'accueil des plasticiens. Dans un lieu qui s'appelle Bureau Police. Il faudra vous renseigner s'il y a le même type d'opération dans la métropole toulonnaise.
Ok.
J'ai une dernière question à vous poser, Dylan. On est donc on arrive au printemps bientôt 2021. Mmh. Et on a déjà à la fin de la semaine, on arrive au printemps. On a passé une année compliquée. Je dis on. Bah, la mienne n'a pas été particulièrement difficile, mais vous démarrez votre activité professionnelle, vous êtes jeune, je pense que ça a dû être peut-être plus difficile que précédemment pour développer votre projet. Comment le début d'année 21 démarre pour vous?
Ben, c'est vrai que cette année, elle démarre de manière un peu bizarre, entre guillemets. Bon, d'abord parce que à cause du Covid, les centres d'art comme la Villa Noailles sont fermés, donc c'est sûr que moi, ça me coupe un peu dans ma lancée, si vous voulez. Et en même temps, je travaille quand même sur quelques projets divers et variés, du design d'objets, bien sûr. Mais c'est vrai que du coup, ça donne un aspect un peu bizarre sur l'année, parce que bon, les gens se referment un peu chez eux, il n'y a plus trop d'interactions, etc. Et en même temps, ça soulève plein de nouvelles questions, que ce soit sur les déchets que va nous apporter cette crise. Parce que bon, je pense que cette crise, une fois passée, tous les éléments qui sont en polycarbonate, qu'est-ce qu'ils vont devenir, vous voyez? Donc ça laisse encore des possibilités d'ouverture sur de la récupération, sur se poser les bonnes questions, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de tout ça, comment on va pouvoir voilà, créer du nouveau mobilier avec peut-être des futurs déchets. Donc moi, c'est sûr que ça a un peu impacté mon activité, et même pas qu'un peu, mais ça l'a beaucoup impacté. Mais je garde quand même le moral, et puis je pense qu'il faut toujours être optimiste et que on apprend de toute façon de ses erreurs pour construire un peu un monde meilleur, quoi, hein, si je peux dire. Donc écoutez, j'espère que au printemps et tout ça, ça ira mieux, quoi. Si on peut dire ça comme ça.
Merci beaucoup, Dylan. Ce sera le mot de la fin. Et je vous remercie beaucoup. J'avais d'autres questions à vous poser, mais j'aurai l'occasion de vous les reposer en tête à tête quand on se verra au printemps, j'espère. Je rappelle à nos auditeurs, oui, et auditrices, que vous êtes donc designer industriel, un jeune designer industriel, que vous avez réalisé ce projet formidable qu'on a un peu évoqué, qui s'appelle See You, une poubelle conçue et designée par vos soins, dont l'enveloppe est réalisée avec du plastique thermoformé. C'est bien ça?
Ouais, plastique recyclé. Thermoformé et moulé avec moule en aluminium.
Merci beaucoup, Dylan. Quant à vous, cher
merci à vous, Bertrand.
Oui, merci infiniment. Pour les auditeurs, je les remercie également et j'espère qu'on vous a apporté des éléments de réflexion sur, d'une part, le design, la jeune création et aussi l'éco-responsabilité et sa pratique dans la création. Vous pouvez télécharger cette émission et l'écouter sur le site radio-cnfpt.fr. Merci.
Merci.
La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.